Ça fait quand même tout drôle de venir au culte et puis de centrer le culte sur une notion, on va dire, politique. Alors c'est sûr que la parole de Dieu, Dieu adresse sa parole aux humains, aux êtres humains. Le message principal, évidemment, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ qui prend notre place et qui nous permet d'être réconciliés avec Dieu. C'est le message essentiel, le message premier. Mais la parole de Dieu aussi, elle nous est adressée pour que nous puissions vivre dans la société dans laquelle nous sommes. On a déjà entendu tout à l'heure, hein, vivez en paix avec ceux qui vous entourent dans la mesure du possible. Et puis Jésus lui-même, il fait de la politique, Jésus. Ça vous étonne peut-être, mais oui. Et c'est un passage qui est très... qui est connu, hein, c'est le passage qui parle de « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». C'est pas la politique, je comprends plus. On va lire quand même ce passage-là. Les pharisiens allèrent alors tenir conseil pour décider comment ils pourraient prendre Jésus au piège en lui posant une question. Ils envoyèrent ensuite quelques-uns de leurs disciples et quelques membres du parti d'Hérode dire à Jésus « Maître, nous savons que tu dis toujours la vérité. Tu l'enseignes la vérité sous la conduite que Dieu demande. Et puis tu n'as pas peur de ce que pensent les autres. Et tu ne tiens pas compte non plus de l'apparence des gens. » Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. Notre loi, est-ce qu'elle permet ou non de payer des impôts à l'empereur romain? Mais Jésus connaissait leurs mauvaises intentions. Il leur dit alors, bande d'hypocrites, pourquoi est-ce que vous me tendez un piège? Montrez-moi l'argent qui sert à payer l'impôt. Ils lui présentèrent une pièce d'argent. Et Jésus leur demanda, ce visage-là et ce nom qui est gravé sur la pièce, de qui sont-ils? De l'empereur, répondirent-ils. Alors Jésus leur dit, allez, payez donc à l'empereur ce qui lui appartient. Et à Dieu, ce qui lui appartient. Quand ils entendirent cette réponse, ils furent remplis d'étonnement, et ils le laissèrent et s'en allèrent. C'est pas de la politique, je m'y connais plus, hein. Donc on a deux partis politiques qui sont diamétralement opposés. Sont les pharisiens. Alors les pharisiens, eux, leur programme politique, c'est de chasser les Romains par tous les moyens, y compris en payant des terroristes. À l'époque, on appelait ça les sicaires, c'est-à-dire des gens qui étaient armés d'une épée qui égorgeaient les gens. Les hommes changent peu, je trouve, hein, dans l'histoire. Donc les pharisiens sont pour ça. Voilà, musclés. Les hérodiens, c'est les collabos. Vous savez, les hérodiens, c'est ceux qui disent, mais Hérode, c'est pas si mal. Alors on va pactiser avec lui, et puis il va nous donner des privilèges, il va... Voilà. Ces deux-là, ils ne peuvent pas se voir, hein, bien sûr. Mais vous savez bien, en politique, quand on a un ennemi commun, on fait ami-ami, hein, pour après se bouffer l'un à l'autre. Hein. Et voilà, on voit qu'ici les deux, les pharisiens, ils vont voir Jésus avec les Hérodiens. Voilà, parce qu'ils ont envie de se débarrasser d'un témoin gênant. Bon, je sais, l'histoire pour eux, ils se disent, mais on va lui poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut payer l'impôt à César? Alors, je ne sais pas si vous imaginez la réponse qu'aurait pu faire Jésus. Hein. Il était piégé quand même. Hein. S'il dit oui, il faut payer l'impôt à César, il se met à dos les pharisiens et il dresse contre lui une partie des gens de Palestine. S'il dit non, alors il se met contre les Hérodiens qui vont le dénoncer à César et voilà, ou à Hérode et ils vont l'arrêter, etc. Jésus est coincé, hein. Mais Jésus, voilà, il a la sagesse d'en haut et lui répond, ben voilà, la réponse qui est devenue un proverbe, hein, proverbe qu'on connaît bien, rendez à César ce qui est à César et rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Et voilà nos hommes, nos politiques de l'époque mis dos à dos. Et ils sont coincés, et on voit bien leur réaction, ils s'en vont, ils disent rien. Alors pour nous, c'est quand même quelque chose qui est important. Jésus est confronté à la politique, et nous aussi, nous sommes confrontés à la politique. Et le thème d'aujourd'hui, hein, qu'a abordé Edith, c'est bien ça. La laïcité, c'est bien un problème essentiellement politique. Alors, je ne sais pas si c'est toi ou c'est Daniel qui l'a lu, le passage de Jean 17. On se retrouve dans une situation qui est semblable. Jean 17, on connaît aussi ça presque par cœur, hein. Ils ne sont pas du monde comme moi. Je ne suis pas du monde. Oh, je vous relis quand même. Je leur ai donné ta parole. Là, c'est le verset 14. Et le monde les a haïs parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. Comme moi, je n'appartiens pas au monde. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Voilà. J'ai oublié un verset entre les deux, hein. D'accord ? J'ai oublié un verset entre les deux. Mais vous savez, ces deux versets que je viens de lire là, ils ont été à l'origine d'une hérésie. Enfin, j'appelle ça une hérésie. Ça a encouragé, par exemple, tous ces moines, vous savez, ces anachorètes qui vivaient dans le désert et qui voulaient plus du tout avoir de contact avec la société dans laquelle ils vivaient. Et puis nos bons ancêtres anabaptistes. Moi, j'ai été élevé comme ça. Hein. On n'est pas du monde. Heureusement, j'avais des parents qui étaient larges d'esprit. Hein. Mais dans certains milieux, on disait, on n'est pas du monde, on ne va pas à la fête du village. Hein. Et on ne se mélange pas. Non ? Oui ? Les plus âgés, on a connu ça. Bien sûr. Oui. Mais ce qu'on oublie, c'est celui qui est entre les deux, hein, vous savez. Mais il n'avait gardé que celui-là. Vous voyez comment on peut utiliser la parole de Dieu pour finalement, voilà, ne pas être en conformité avec ce que le Seigneur enseigne. Il dit entre les deux, je ne te prie pas de les retirer du monde, mais de les garder, dans ma traduction, on dit du mauvais, de tout ce qui pourrait les détourner de Dieu. C'est ça qui est important. Parce que Jésus, hein, lui, pour être dans le monde, hein, vous savez, ce type Jésus, hein, qui fricotait toujours avec des gens de mauvaise vie, qui buvait le coup, qui allait chez les gens, qui... voilà, hein. C'est les accusations qu'on faisait à Jésus à l'époque. Qu'est-ce qu'ils font proclame? Tiens, Darnay, c'est pas très bien, ils vont dans les bistrots. Non, ils vont au bistrot à Darnay. Ça, c'est pas très bien. Proclame, ils sont en train de se pervertir, là. Hein.
Pas les jeunes, mais
bon, il va pas. Ah, voilà. Alors, c'est encore pire, ça. D'accord? C'est cette tentation, quand même. Cette tentation qui fait penser, je dis pas dire, mais penser, oh, on est quand même meilleur, non, vous trouvez pas? Mais si, on est quand même meilleur. Et ainsi, on va, si vous voulez, considérer la société comme mauvaise, hein, comme mauvaise, et puis s'en écarter. Alors que nous sommes appelés, je reviens à la lecture de Daniel, hein, nous sommes appelés à être sel et lumière. Oui, sel et lumière. Alors je ne vois pas comment on pourrait être sel et lumière en se retirant. Non, nous sommes au contraire invités à être dans le monde. Et alors vis-à-vis des autorités, vis-à-vis des autorités. Alors, vous savez, réponse, je crois que vous le connaissez, ça se trouve dans Romains, chapitre 13. Vous connaissez ce qui est dit? Obéissez aux autorités. On va le lire quand même. Romains 13. Chacun de vous doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Car toute autorité vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Et ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. En effet, les magistrats, ils ne sont pas à craindre pour ceux qui font le bien. Mais ils sont à craindre par ceux qui font le mal. Désires-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Alors, fais le bien, fais ce qu'il faut. Et tu recevras des éloges. Car l'autorité est au service de Dieu pour t'encourager à bien faire. Mais si tu fais le mal, alors crains-le, crains-la. Car ce n'est pas pour rien que l'autorité a le pouvoir de punir, elle est au service de Dieu pour montrer sa colère contre celui qui agit mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre aux autorités, non seulement pour éviter la colère de Dieu, mais encore par devoir de conscience. C'est aussi pourquoi vous payez des impôts. Car ceux qui les perçoivent sont au service de Dieu pour accomplir soigneusement leurs tâches. Payez à chacun ce que vous lui devez. Payez l'impôt à qui vous le devez, la taxe à qui vous la devez. Montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. Voilà. Alors face à l'autorité, on ne bouge pas. On fait ce qu'elle nous dit. Et on n'essaye pas de... Hein? Voilà. Eh bien, non. Non. Et on a des exemples. Alors on a l'exemple, c'est l'exemple de Jésus. Jésus ne va pas se laisser non plus marcher sur les pieds quand quelque chose n'est pas légal, quand quelque chose n'est pas selon l'ordre. Et Jésus proteste. Moi, ça m'étonne toujours, parce qu'on présente toujours Jésus, vous savez, avec les grands cheveux blonds, etc. Hein. Jésus, il savait, hein. Il savait dire aux pharisiens ce qu'ils pensaient, hein. Race de vipères, hein. Il ne se cachait pas pour leur dire. Et puis, devant l'autorité, eh bien, il réagit. On va prendre, c'est dans Jean 18. C'est pendant la passion de Jésus, Jean 18. Il se trouve chez le grand prêtre, hein, qui l'interroge. Hein. Et à un moment donné, Jésus donc répond au grand prêtre, « Pourquoi interroges-tu ? Demande à ceux qui m'ont entendu. » Demande à ceux qui m'ont entendu ce que je leur ai dit. Ils savent bien, eux, de quoi je leur ai parlé. Donc il répond au grand prêtre. À ce moment-là, un des gardes qui se trouvait là donna une gifle à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au grand prêtre ?» Jésus lui répondit, « Si j'ai dit quelque chose de mal, montre-nous en quoi. Mais si ce que j'ai fait est juste, pourquoi est-ce que tu me frappes ?» Vous voyez Jésus ici. Il ne se laisse pas faire. Ce serviteur n'avait pas à le frapper, même s'il était serviteur du grand prêtre. Et Jésus proteste. Jésus proteste. On a un autre exemple, c'est l'apôtre Paul. Alors l'apôtre Paul, vous savez, c'est à la suite, je ne vais pas vous le dire, mais c'est à la suite de sa libération de prison. Et il va être donc confronté au, on va dire, au gouverneur, hein, au commandant. Et l'apôtre Paul va être fouetté, frappé. Et l'apôtre Paul va réagir. Bon, je crois quand même, Julie, c'est quand même des passages qu'on ne lit pas souvent, et je trouve que c'est très... Dans Actes, au chapitre 16. Donc la nuit, l'apôtre Paul a donc... l'apôtre Paul a donc été libéré par le Seigneur, il y a eu un tremblement de terre, ses liens ont été détachés. Ensuite, le gardien craint pour sa vie et l'apôtre Paul lui dit non, hein, ne crains pas. Et le gardien se convertit, on dirait aujourd'hui. Hein. Et c'est lui qui fait la question célèbre, hein. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Et la réponse est, crois pour le Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Voilà. Et après, donc, vous savez que le gardien ensuite les accueille, leur donne à manger, etc. Et puis quand il fit jour, je reprends le texte ici, les magistrats romains envoyèrent des agents dire au gardien, relâche ces gens. Le gardien va l'annoncer à Paul en disant, les magistrats ont envoyé l'ordre de vous relâcher, vous pouvez donc sortir et vous en aller en paix. Écoutez bien la suite. Mais Paul dit aux agents, ils nous ont fait battre en public, sans que nous ayons été jugés régulièrement, alors que nous sommes des citoyens romains. Puis ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils veulent nous faire sortir comme ça, en cachette? Eh bien non. Qu'ils viennent eux-mêmes nous libérer. Les agents rapportèrent ces paroles aux magistrats romains, et ceux-ci furent très effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient citoyens romains. Ils vinrent donc leur présenter des excuses, Puis ils les firent sortir de prison en les priant de quitter la ville. Si Paul n'avait rien dit, vous savez ce qu'on... ça serait encouragé l'illégalité. Ça serait encouragé une justice qui n'est pas une justice. Paul proteste. Et il exige que les magistrats viennent finalement s'excuser. Vous voyez en filigrane derrière notre rôle aussi à nous. Vous savez, on est souvent comme ça, hein? On préfère pas voir. Comme ça, quand on voit pas, eh bien, on est quitte d'agir. Ben oui. Il y avait une devise célèbre qui était des jeunesses ouvrières catholiques de l'époque, d'une bonne devise, c'était voir, juger, agir. Si je vois pas, j'ai ni à juger ni à agir et je suis tranquille. Moi, je suis, j'allais dire souvent, peut-être souvent, comme ça. Je préfère pas voir, voilà, changer de trottoir, vous savez. Voilà. Et on voit pas. Vous savez que... il y a aussi cette parole de Dieu, ne te détourne pas d'eux. Et ça fait partie, ça, de notre action politique. C'est que là, c'est qu'il y a deux mots, hein. Quand vous avez lu tout à l'heure, vous avez prié pour la politique. C'est qu'il y a un mot masculin, un mot féminin. La politique, c'est plutôt ce qui se passe avec les partis politiques. Par contre, politique s'emploie au masculin, le politique. Et le politique, c'est autre chose, c'est la manière d'organiser la société. Alors que la politique, c'est discutailler. Vous voyez ce que je veux dire ? On est... abreuvé, hein, de politique. Et je me dis quelquefois, vous feriez mieux de vous occuper du politique. D'accord ? Bon, ce qui n'empêche pas qu'il faut prier pour aussi la politique. Hein. Parce qu'en général, aujourd'hui, on pense que la politique est féminin. Hein. Voyez comment tous nous sommes appelés à réagir. Nous sommes appelés à réagir. Et il y a des passages qui sont... que tu as lu, tu m'as volé mes textes. Le texte de Jérémie, on peut le prendre, hein, on peut le relire, hein, si tu permets, Daniel. Jérémie 29. Donc c'est les Juifs qui sont en déportés, qui ont été déportés à Babylone. Et Jérémie donc s'adresse à eux. Et là, les Juifs à Babylone, ils considèrent qu'ils sont dans le milieu d'un peuple étranger et donc ils se replient sur eux-mêmes. Ils se replient sur eux-mêmes. Et ils ne sont plus, selon Dieu, ils ne sont plus les témoins de Dieu là où ils sont. Bon, c'est vrai qu'ils ont des conditions de vie qui sont quand même compliquées, hein, faut dire. Et voilà ce que leur dit Jérémie, hein, je permets de relire. Hein. Construisez des maisons pour vous y installer. Plantez des jardins pour vous nourrir de ce qu'ils produisent. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, mariez vos fils et vos filles, et qu'à leur tour ils aient des enfants, devenez ainsi nombreux là-bas, et ne diminuez surtout pas, cherchez à rendre prospère la ville où le Seigneur vous a fait déporter, et priez-le pour elle, car plus elle sera prospère, plus vous le serez vous-même. Si ce n'est pas de la politique, ça, vous êtes d'accord? Nous sommes invités, et l'apôtre Paul le redit à Timothée, hein, au chapitre 2, il dit « Priez pour les autorités ». Puis il emploie quatre expressions, hein, dans Timothée. Parce que il juge, l'apôtre Paul juge que c'est très important. Très important de notre action dans le monde dans lequel nous vivons. On a une action qui un rôle très important. En tout premier lieu, je recommande que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les êtres humains, et en particulier pour les rois et tous ceux qui détiennent l'autorité, afin que nous puissions mener une vie tranquille, paisible, respectable, dans un parfait attachement à Dieu. Voilà. Ça, c'est de là. Ça, c'est la politique en ce qui nous concerne. Notre action, une action, j'allais dire, économique et sociale, qui est recommandée par Jérémie. Ensuite, une action spirituelle, de prière. Alors, vous voyez, on a à être sel et lumière dans la société. On a à être dans le domaine économique, on a à être, j'allais dire, exemplaire. Et puis on a ce rôle à jouer important qui est la prière. La prière pour les autorités. Et ça, pour Dieu, c'est quelque chose qui est très important. Un dernier passage que j'aimerais vous lire, c'est dans Jérémie. Dans Ésaïe, pardon, chapitre 58. Après, c'est un passage qu'on connaît bien, mais c'est quand même bon d'écouter la parole de Dieu. On va commencer à partir, il s'agit du jeûne. C'est que dans la Bible, on a traduit jeûne, mais en fait, en hébreu, ça veut plutôt dire humilier son âme, qu'on traduit par jeûne. C'est-à-dire là, se comporter dans le contexte, se comporter, on va dire, pour nous, en bon chrétien. Vous voyez ce que je veux dire ? Le bon chrétien. Vous savez, c'est un peu péjoratif, hein? Oh, le bon chrétien. Oh, qu'il est bon chrétien, celui-là. Hein? Qui part derrière, hein? D'accord? Oui. On se connaît. Je suis là sans personne. Hein? Humiliez votre âme. Verset 6. Jeûnez comme je l'aime, dit l'Éternel. Voici comment j'aimerais que vous jeûniez, dit l'Éternel. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux émigrés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors, ce sera pour toi un jour nouveau. Les chrétiens, pendant de certaines époques, ils ont eu tendance à se replier un peu sur eux. Ils ont prié pour. Oui, on a prié pour. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Nous savons, on dit toujours que Dieu fait ce que nous ne pouvons pas faire. Et vous voyez le programme qui est dit, mais ce n'est pas le seul passage, il y a beaucoup de passages déjà dans le Deutéronome, hein, où il y a toute une série d'actions concrètes que nous pouvons faire. Bien sûr, nous pouvons prier, il faut prier, bien sûr, mais si on s'arrête là, non. Si c'est comme ça que vous priez, il dit, et que vous oubliez de venir en aide à toutes ces personnes-là, ça ne va pas. Je n'y prends aucun plaisir, dira dans la suite le Seigneur. Et à un moment même, il dit, j'en ai assez d'entendre vos prières, vos chants, vos trucs. Et je résume en disant, le Seigneur ne l'a pas dit comme ça, mais c'était ça veut dire ça, au boulot. Je crois que ça, c'est un programme, je trouve un programme qui nous interpelle. Donc, d'autant plus dans des sociétés comme la nôtre, c'est Edith a pris le dossier de l'AEMF, dans une société où finalement la société régie est basée sur ce qu'on appelle la laïcité, c'est-à-dire que voilà, on est libre. Et on peut librement dire sa foi et aussi venir en aide, participer à des actions. Bien sûr, on ne peut pas tout faire, mais on a des associations qui le font. Les choses que nous avons à les soutenir. Je crois que vous les soutenez, Porte Ouverte ou la carte ou des choses comme ça. Hein. Je crois qu'on a, on a des gens que le Seigneur appelle à agir, et ils agissent à notre place. Et nous, ben, ce que je fais, ben, on donne 4 sous, hein. D'accord? Voilà. Puis on prie aussi. Mais je crois qu'il ne faut pas se contenter seulement de prier. Je crois qu'il faut aussi, voilà. Parce que ces gens-là, s'ils peuvent agir, c'est parce que on leur en donne les moyens et des moyens financiers. Vous voyez que la place, le rôle politique des chrétiens, de l'Église, je trouve que c'est un rôle important. Et si on voulait vraiment être sel et lumière, je crois qu'il faut, voilà. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, hein? Oui. Et tu aimeras aussi ton prochain, hein? Qui n'est pas seulement le... Vous voyez ce que je veux dire, hein? Celui avec qui je suis bien. Si vous aimez, vous connaissez la suite, ceux qui vous aiment, voilà, c'est bien, mais bon. Hein? C'est bien, mais voilà. Une dernière petite chose quand même dans ce domaine, c'est dans le domaine de l'histoire de l'Église. L'Église, elle a été tentée de faire de la politique. C'est-à-dire qu'elle a pris le pouvoir. Elle a pris le pouvoir. Où elle a pactisé. Et ça, le politico-religieux, il faut être très vigilant. Je reviens à Jésus. Rends César ce qui est à César, puis à Dieu ce qui est à Dieu. mais ne te transforme pas en quelqu'un qui, voilà, en tant que religieux, hein, qui va prendre la place et imposer. On voit ce que ça donne aujourd'hui, hein. Ces religions qui deviennent des associations politico-religieuses et qui imposent des trucs affreux. Et vous savez, on n'a rien à revendre, hein. Vous connaissez l'histoire religieuse en France, hein, des guerres de religion, hein. On n'a pas été tendre, hein, vous savez, on sait, aujourd'hui on se dit, oh, ils égorgent, nous on coupait les têtes, hein. Je crois qu'il faut être, vous sentez combien c'est un équilibre tout ça, et je crois qu'il faut demander au Seigneur sa sagesse. Et je crois que le Seigneur nous permet de vivre dans cette situation de laïcité. Je crois qu'il faut la préserver. Il faut la préserver des deux côtés. Il faut que l'État la préserve. Mais il faut aussi que les religieux n'interfèrent pas dans les affaires de l'État. Il y a des lois. Ben les chrétiens sont appelés à respecter les lois. Vous savez, quelquefois on dit je suis chrétien, je sers Dieu, et puis tout m'est permis. Non. Non. Il y a des lieux, par exemple, où on est appelé à s'abstenir de parler de Dieu. Il y a des salles qui sont communales, etc., etc., hein. Et dans ces lieux, ce sont des lieux neutres, on dit. Et quelquefois, en tant que chrétien, on n'est pas toujours trop prudent là-dedans. Et quelquefois, on ne demande pas d'autorisation, puis on fait quand même. Ou si on demande l'autorisation d'avoir un rassemblement religieux dans un lieu laïque, et qu'on est d'accord, c'est bien. Mais si on le fait comme ça, non. Je crois que nous avons, nous aussi, à respecter, se respecter et respecter. Alors, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais moi, je vous encourage beaucoup à prier, à agir, et je vous donne la formule, là, les trois, j'en ai ajouté un, voir, juger, agir, prier. D'accord? J'en ajoute un à la formule, hein, prier. Alors certains disent, prier c'est déjà agir. Oui, 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 d'accord, d'accord. Mais prier n'empêche pas d'agir, hein, concrètement. Que le Seigneur m'aide à être vigilant, à être un témoin crédible dans la société dans laquelle je vis. Et puis je crois que prier aussi tous les jours, demander au Seigneur son aide pour ceux qui sont aujourd'hui dans des situations terribles. Et j'entendais l'autre jour pour les 30 Égyptiens qui ont été égorgés en Libye, là, il y avait un témoignage qui disait que ces gens-là, on leur avait simplement demandé, récite la Shahada, vous savez, Mahomet, non, Allah, ce Dieu, Mahomet, son prophète, et ils avaient la vie sauve. Je ne sais pas si vous imaginez. Et ces gens-là refusent et ils sont égorgés les uns après les autres. Oui. Et nous qui vivons dans un contexte d'extrême liberté, est-ce que j'ai le courage, est-ce que nous avons le courage de nous affirmer et d'être lumière et celle là où nous vivons? On va prier le Seigneur maintenant. Seigneur, J'ai conscience de ma faiblesse, de ma fragilité. Nous avons conscience de cette faiblesse, de ce manque de courage parfois. Seigneur, pardon pour ces églises officielles qui ne donnent pas une bonne image de toi. Seigneur, nous te prions pour les églises qui ont ce souci de t'être fidèles. Te prions aussi pour toutes ces églises du silence qui se cachent. Seigneur, nous t'implorons et nous te demandons vraiment de continuer à leur donner ton aide, parce que dans ta parole tu le promets, et si tu le promets, tu le fais. Mais Seigneur, nous te demandons instamment de leur donner ce dont ils ont besoin. Et puis Seigneur, individuellement, donne-nous la sagesse de savoir protester, de savoir proposer, de savoir venir en aide, de savoir aussi prier. Oui, notre Dieu, tu connais ma faiblesse, notre faiblesse, et tu sais combien nous avons besoin de toi. Mais nous avons cette certitude que si nous humilions notre âme, si nous reconnaissons ce que nous sommes devant toi, tu nous relèves et tu nous donnes ce dont nous avons besoin. Et nous voulons te louer parce que tout cela est possible à cause de Jésus, ton Fils, notre Sauveur, qui a accepté d'être puni à notre place, mais qui nous donne un libre accès auprès de toi. Oui, notre Dieu, nous te remercions et nous te louons. Et nous le faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.